L'EM, l'émission, l'émission, sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui plonge vos oreilles dans le Finistère avec toujours en cette 9e saison les invités du LEM en première partie. Le mardi, une fois par mois, on réalise une émission en partenariat avec l'association Les Petits Débrouillards Grand Ouest. C'est une association qui fait de la vulgarisation scientifique, de la médiation des sciences et des techniques. Parmi les sciences abordées, il y a notamment la climatologie, l'écologie, l'hydrologie, la biologie, beaucoup de sciences humaines, puisque je vous rappelle que le thème de notre série d'émissions, c'est l'adaptation des humains au changement climatique. On a déjà évoqué, par exemple, l'adaptation au risque de la montée des eaux et de l'inondation à Quimperlé, les adaptations nécessaires dans les exploitations agricoles et au jardin. On a aussi comparé la Bretagne avec ce qui est vécu dans une région de l'Inde. Les petits débrouillards sont pleins de ressources. Aujourd'hui, on se dirige vers Brest, une ville qui pense à son avenir. Et en fait, ce sont les petits débrouillards et l'UBO Open Factory qui ont lancé il y a plusieurs années les Super Brest, des grands moments d'intelligence collective. Avec nous pour en discuter, il y a Anthony Legoïc-Offrette et Marie Trébaol des petits débrouillards. Et aussi une participante de Super Brest, Solange Cloarec, qui s'intéresse à l'habitat participatif. Bonjour.
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 Alors, on va commencer par peut-être décrire ce qu'est Super Brest. Donc, c'est Anthony plutôt.
Et oui.
L'UBO Open Factory aussi, rappeler.
Bien sûr,
sont pas
bien
là.
Sûr. Ouais. Alors, en fait, l'UBO Open Factory, c'est le Fab Lab de l'Université de Bretagne Occidentale, l'UBO. Et un Fab Lab, c'est un atelier de fabrication numérique. C'est-à-dire qu'en gros, un lieu où il y a des personnes spécialisées dans ce qu'on appelle l'intelligence collective, en fait, apprendre à travailler ensemble, récolter des idées, faire émerger des idées et aller jusqu'au bout de ces idées. Et puis, des machines à commande numérique, telles que des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des fraiseuses numériques, des dispositifs électroniques programmables. Pour ceux qui connaissent, il y a des trucs qui s'appellent Arduino, Raspberry, puis des ordinateurs et de l'informatique. Donc voilà.
C'est que du numérique, les Fab Labs ? Ça peut pas être aussi d'autres techniques ?
Alors, les Fab Labs, ce sont des ateliers de fabrication numérique. C'est-à-dire qu'en gros, c'est l'équivalent d'un atelier de bricolage, mais avec des machines à commande numérique. Mais il y a aussi tous les équipements classiques du bricolage, à savoir des scies sauteuses, des scies, de quoi souder, de quoi découper, etc. Bien sûr. Et comme je disais, c'est un équipement. Mais c'est surtout des personnes qui permettent d'accompagner l'émergence de projets et la mener à bout des projets. Par exemple, on n'en parle pas assez, mais pendant la période de crise du Covid, les Fab Labs se sont mobilisés un peu partout en France pour créer une sorte d'immense usine distribuée pour fabriquer en impression 3D des supports de visières pour protéger les postillons pour le personnel médical. L'UBO Open Factory a travaillé notamment sur l'adaptation des masques de chez Decathlon, vous savez, les masques de plongée, là, les snorkies, je ne sais pas
oui,
quoi, pour les adapter à la respiration en hôpital, en fait. Donc, en fait, les Fab Labs sont aussi des équipements capables de réagir rapidement, de trouver des solutions techniques à des problèmes sociaux divers et variés.
Mais connaissant la science à Brest et l'UBO, pourrait y avoir aussi la Biotech Lab dans le Fab Lab.
Bien sûr, il y a eu des projets autour de la recherche en biologie. Après, je ne connais pas les détails de l'UBO Open Factory et je t'invite à les inviter autour de ce micro et leur équipe sera tout à fait disponible pour répondre à ce type de questions. Et d'ailleurs, c'est une équipe d'environ 10 personnes qui carbure et qui bosse sur plein de fronts. Sur la question du handicap, par exemple, ils ont, avec la fondation ILDIS, conçu et développé un bus Fab Lab, le Braise Fabribus, qui peut aller dans les structures de la fondation ILDIS ou d'autres structures pour organiser des temps où on va traiter des questions liées au handicap. Et ils organisent un hackathon bientôt, je pense, je ne sais plus quelle est la date, à Carantec, sur l'adaptation du loisir maritime, hein, par exemple tout ce qui est paddle, planche de surf, baignade, etc., pour des personnes en situation de handicap. Donc ça consiste à adapter des poignées en impression 3D, avec des scanners, etc., des choses comme ça. Et ils font énormément de choses, puisque d'ailleurs, pour revenir un peu à Super Brest,
voilà,
au cours
oui.
d'un des premiers Super Brest, Adamou, un des participants, qui est à un handicap, avait proposé de développer des prothèses et orthèses décorées, personnalisées pour les personnes en situation de handicap. Et ça a débouché ce projet en allant de fil en aiguille à la conception d'un Handilab, autrement dit un Fab Lab dédié aux questions du handicap. Et aujourd'hui, Adamou fait partie de l'équipe de l'UBO Open Factory. C'est-à-dire que ce qui se passe à Super Brest devient aussi des projets qui transforment la réalité de ce monde pour le rendre meilleur.
Alors on commence à entreapercevoir ce qu'est Super Brest. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est un hackathon aussi, si on veut.
C'est exactement ça. C'est un hackathon. Un hackathon hackathon, c'est un mot valise hein, qui concatène les mots marathon et le mot to hack, un peu comme téléthon, hein, c'est un marathon télévisuel, le téléthon. Donc to hack en anglais, ça veut dire bidouiller, bricoler, hein, c'était un terme utilisé par les trappeurs nord-américains quand ils se construisaient du mobilier hein, à la hache, ils taillaient des bouts de bois pour se faire des tabourets, des tables et des choses comme ça. Donc un hack, c'est un bidouillage.
Ah, je croyais que c'était un piratage, moi.
Mais non, justement, c'est un détournement de ce mot-là. Il faut voir que des étudiants du MIT, hein, le Massachusetts Institute of Technology, l'université de Harvard, dans les années 70, en fait, des premiers élèves ingénieurs ont monté un club de modélisme ferroviaire avec des petits trains, etc. Et en fait, ils se sont réappropriés ce terme to hack, hein, donc faire du mobilier à la hache, un peu sauvagement, bidouiller, bricoler de manière astucieuse, pour le transposer dans leur monde, le monde de l'informatique, de l'électronique, pour détourner, par exemple, l'usage des centraux téléphoniques pour les adapter à la gestion des aiguillages de leur modélisme ferroviaire. Et pour eux, un hacker, c'est quelqu'un qui fait un bidouillage astucieux, intelligent, généralement inélégant, parce que tu bidouilles avec des morceaux de scotch, du code un peu sauvage, etc. Et tu trouves des solutions concrètes et qui fonctionnent. Donc un hack, c'est une solution concrète qui fonctionne et bien bidouillée, un détournement d'usage. Et un hacker, c'est quelqu'un qui fait ce genre de truc. Après, petit à petit, dans les médias, ça s'est transformé en vilain pirate informatique avec un sweat, à capuche, des gants et qui tape sur un ordinateur qui fait des filets Matrix. Sauf que c'est une vision caricaturale de la réalité. Un hacker, aujourd'hui, c'est plutôt un bidouilleur informatique, quelqu'un qui s'y connaît en code et qui est créatif et donc capable de choses assez intéressantes. Il y a des hackers qui travaillent pour le gouvernement, qui travaillent pour des entreprises, etc. Et après, effectivement, il y a toujours le côté, on va dire, yin et yang, hein, le white hat hacker, le hacker chapeau blanc, le magicien qui sauve, on va dire, puis il y a le black hat, le méchant hacker qui peut faire des détournements. Mais le sens du mot hacker, c'est vraiment être créatif avec le monde informatique et inventer des solutions, voilà.
Mais la bidouille, elle avait déjà son Open Bidouille Camp. Hein. Elle l'a toujours, d'ailleurs, hein, je crois.
Tout à fait, oui.
Qui est d'ailleurs organisé aussi par les Petits Débrouillards.
Oui, coordonné par les Petits Débrouillards et organisé par une vingtaine d'associations brestoises.
Mais c'est différent du Super Brest.
Exactement. La bidouille, Open Bidouille Camp, c'est pour partager les joies du bricolage et du faire par soi-même, hein, la tête et les mains ensemble pour être créatif. Et c'est plutôt une sorte d'immense atelier qui a lieu cette année, le 17 mai, le samedi 17 mai, aux Ateliers des Capucins, où on va redonner son sens originel aux Ateliers des Capucins, où on va plonger les mains dans la technique, bricoler, bidouiller, réparer des vélos, faire de l'électronique. Il y aura aussi des imprimantes 3D pour ceux qui veulent voir ce que c'est et s'initier. Il y aura des jeux avec la médiathèque, etc., etc. Mais Super Brest, donc c'est un hackathon, un marathon créatif où on commence en général le dernier week-end de novembre, un vendredi soir, par faire émerger des idées. Donc il y a des personnes qui arrivent avec déjà des idées, des propositions. Les gens vont constituer des équipes. Donc il y a des apporteurs d'idées, d'autres gens qui viennent pour être membres d'équipes. Et ces équipes vont turbiner pendant le vendredi soir, samedi et dimanche pour arriver au dimanche soir et présenter un projet qui fonctionne. En gros, donc ça peut être un projet technique. Hein. Il y a eu par exemple une année où une équipe a produit une joëlette en bambou. Alors pour, vous savez ce que c'est une joëlette autour de la table ?
Bah, c'est pour les personnes en situation de handicap d'ailleurs, pour qu'elles puissent se promener, c'est ça?
C'est ça, pour accéder à la petite randonnée, en fait.
De petit chariot,
une sorte de chaise à porteur avec une roue centrale, deux personnes de chaque côté, la personne en situation de handicap assise dans un fauteuil au milieu, et comme ça, les gens peuvent accéder à la petite randonnée. Donc, une joëlette en bambou qui a été menée par Thomas Mazurier, qui tient aujourd'hui la boutique Les Vélos Brestois, où il a d'ailleurs un vélo en bambou en démonstration. C'est-à-dire qu'en gros, les projets de Super Brest, pareil, donnent lieu à des réalisations concrètes. Donc, des équipes qui bossent pendant un week-end entier et qui produisent des réalisations concrètes, ou alors des projets comme, par exemple, on parlera tout à l'heure de l'habitat participatif, ou des projets comme accueillir une invasion extraterrestre à Brest, qui consiste à organiser tout un événement avec plein de personnes par-ci par-là, quoi, hein. Donc des projets organisationnels ou des projets concrets, matériels, d'objets.
Et quel est le lien avec l'adaptation au changement climatique ?
Eh bien, Super Brest, quasiment depuis toujours, s'inscrit dans les 17 ODD de l'ONU, donc pas mal d'acronymes, hein, donc les 17 objectifs du développement durable tels qu'énoncés par l'Organisation des Nations Unies, parce que Super Brest, le sous-thème, c'est inventer la ville de demain, fabriquer la ville de demain. Donc il s'agit de que 50 personnes qui participent à Super Brest posent des problématiques de la vie de tous les jours, de l'organisation de la vie ensemble dans la ville, pour trouver des solutions pour rendre le territoire durable. Il faut savoir que Brest Métropole est signataire du projet Fab City, qui consiste à ce que d'ici à 2050, plus de 75% de ce qui est consommé sur le territoire soit produit sur le territoire ou à une échelle de distance convenable.
Ce qui est énorme, parce qu'actuellement, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas idée, mais on n'atteint même pas la moitié, je pense.
Je ne saurais dire, et je me garderais bien de donner des chiffres.
Matières, mais...
C'est ça, parce que typiquement, la nourriture, On espère qu'elle est produite pas très loin, parce que ça serait absurde qu'elle vienne de l'autre bout du monde. En revanche, effectivement, pour ce qui est des ordinateurs, pour ce qui est des smartphones, ça, on comprend que ça vienne de plus loin. Chaque objet a sa pertinence et sa distance. Mais par exemple, pour réparer ses chaussures, un cordonnier à proximité, c'est plutôt intelligent. Plutôt que d'envoyer ses chaussures à l'autre bout du monde, c'est pas nécessaire.
Et les 75% de production locale, ça concernerait tout ?
Ouais, tout ce qui est produit. Consommer,
ça paraît très ambitieux, pour les ordinateurs.
C'est très ambitieux, oui, mais on fabriquait des ordinateurs en Europe. Il y avait des usines d'électronique quand on était petit en France. Aujourd'hui, je me suis renseigné, moi j'ai voulu développer des cartes électroniques pédagogiques, comme Arduino pour ceux qui connaissent, hein, des petits éléments qui serviraient d'activité pédagogique pour apprendre le code, pour apprendre à programmer, un des enjeux éducatifs des temps d'aujourd'hui. En fait, il n'y a pas d'usine qui fabrique des composants électroniques en France, et très très peu en Europe. On trouve à Brest, que ce soit AOD Electronics ou il y a une autre entreprise, son nom m'échappe, hein, qui fabrique des circuits imprimés, qui aurait pu assembler ces circuits imprimés en France, mais ils achètent les composants en Chine, en fait, comme finalement moi. Donc ça m'aurait coûté quasiment 20 € par carte électronique que je peux acheter en Chine 2,50 € avec les mêmes composants, avec les mêmes trajets, donc l'économie n'était pas intéressante. Mais je pense que se poser la question de la relocalisation de l'industrie à différentes échelles de territoires pertinents, c'est une question d'actualité, hein, c'est une question de souveraineté, d'emploi, de développement territorial, d'enjeux liés à la transition écologique et sociale, par rapport au transport, par rapport aux ressources matérielles, etc. Quoi.
Et donc dans Superbrest, dans tous les projets qui ont été... Parce que ça atteint 10 ans, hein, cette année, Superbrest. Hein.
Cette année, Superbrest fête ses 10 ans, effectivement.
Donc il y a eu pas mal de projets qui sont passés, je suppose. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu comme type de projet
Par exemple, on a eu des brasseurs qui venaient de Morlaix qui ont décidé de monter une machine à laver les fûts de bière. Parce que quand tu es un microbrasseur, tu n'as pas forcément de quoi t'acheter une machine à laver les fûts pour reconditionner ta bière, etc. Donc si tu veux le faire en local, parce qu'on connaissait des gens, qui, notamment la brasserie du Baril à l'époque, ils prenaient leurs fûts en camion, ils les amenaient à laver dans une autre brasserie, ils revenaient, donc ça faisait du transport, etc. Et donc moi je me suis vu avec Benoît Corr, le fondateur de la brasserie du Baril, programmer un Arduino pour gérer les différentes électrovannes et les pompes pour gérer tout ce qui est liquide de nettoyage, de rinçage, etc. Et on a fabriqué une machine à laver les fûts issue de Superbrest, en fait.
Wow.
Et donc ça, c'est un exemple de projet qui s'inscrit quand même dans la relocalisation, etc. Il y a le projet Skravik, qui aujourd'hui est une coopérative, qui s'intéresse à développer une voile de travail sur les questions environnementales. Et ils avaient participé à Superbrest en essayant de mettre au point un dispositif pour analyser l'ADN environnemental. L'ADN environnemental, c'est tout ce qu'on trouve dans l'eau. En gros, vous prenez un litre d'eau de mer et vous regardez ce qu'il y a dedans, en fait, parce que tous les organismes vivants perdent des cellules, hein, un peu des cellules de peau, des cellules de je ne sais où, etc. Et donc, en étudiant ces cellules-là, on peut commencer une cartographie de la biodiversité présente dans l'eau. Donc, en fait, ils avaient modélisé un dispositif technique permettant d'analyser l'ADN environnemental pendant Superbrest. Il y a plein d'autres projets, des projets éducatifs, hein, puisque je pense qu'on peut le dire, fabriquer l'avenir, penser une société durable, c'est aussi s'intéresser aux questions d'éducation. Et par exemple, il y a eu un projet autour du musée des enfants, où on a prototypé toute une série de dalles tactiles pédagogiques et éducatives. Et aujourd'hui, la personne qui portait ce projet ouvre un musée des enfants en bas de Siam, ou je ne sais plus où, hein, de ce côté-là, de la ville de Brest, quelques temps après. Alors bien sûr, ces projets ne sont pas nés à Superbrest, hein, c'est pas Superbrest qui est responsable de ça. Superbrest n'est qu'un espace qui accueille des projets, soit qui émergent à cette occasion-là, soit des porteurs de projets ou des porteuses de projets qui les amènent et qui proposent à des gens de bosser avec eux le temps d'un week-end. Donc Superbrest sert d'accélérateur, de catalyseur pour développer ces projets au service de l'intérêt général.
Exemple en chair et en os avec Solange Cloarec. Quel est le projet ?
Oui, donc effectivement, moi je suis arrivée sur ce projet-là par l'intermédiaire d'une collègue avec qui on se retrouve, donc on est une vingtaine de personnes, et nous, notre souhait, c'est vraiment d'habiter un petit peu différemment de chacun sa maison et chacun chez soi. On est plus sur un projet d'habitat participatif, on en parle de plus en plus, et donc effectivement, nous retrouvons régulièrement, et avec ces 19 personnes, on s'est dit comment on fait pour avancer et pour comment développer notre projet.
Ça sera à Brest.
Et ce sera à Brest, enfin on espère en tous les cas. Et Superbrest nous a permis de nous poser et puis d'être pendant 3 jours complètement sur notre projet et puis d'apprendre aussi entre personnes à se connaître et à créer du lien et aussi à communiquer un maximum comment faire avancer notre problématique et comment développer cette nouvelle forme d'habitat, non pas uniquement pour nous, mais puisqu'on entend de plus en plus de gens en parler, et comment communiquer. Nous, c'était surtout ça notre enjeu.
Comment s'appelle votre groupe, enfin votre projet ?
Notre projet actuellement donc, s'appelle Habitat et Compagnie.
Mm-hmm. Et donc, vous êtes déjà passé à Super Brest ?
Nous sommes allés le dernier...
En 2024, sur,
voilà,
d'accord,
voilà,
en novembre 2024.
On est venu. Et effectivement, je pense que ça... En tous les cas, moi, pour ma part, puisque je ne peux pas parler au nom des autres collègues, moi, ça m'a complètement boosté et ça nous a permis aussi de créer des liens avec d'autres... Parce que moi, je travaillais dans le milieu culturel, donc il y a d'autres projets qui m'ont super intéressé et voilà, on reste en contact et je pense qu'il y aura des projets qui se lient finalement, puisqu'il y a tellement de projets, tellement de diversité sur Super Brest, que ça permet aussi d'échanger. Et puis, on est surtout accompagné, je tiens vraiment à le souligner, de professionnels qui sont super compétents.
Ouais. Et, qui sont les experts qui vous ont accompagné?
Je vais laisser Anthony les citer peut-être, mais effectivement, nous, on continue. Voilà, et puis, on sait que si on a besoin d'aide, on peut retourner vers eux et vers elles, puisqu'il y avait les deux. Donc, et je pense que c'est vraiment un temps fort et qui peut être qu'enrichissant pour tous les groupes. Donc moi, j'invite vraiment tout le monde à venir et à vivre cette expérience. Nous, effectivement, dans cette année... Enfin, cette année, oui, non, c'était l'année dernière, du coup. L'année dernière, oui, donc...
Ça fait six mois, on va dire.
Voilà, ça fait six mois. En fait, on s'est retrouvés entre personnes qui nous connaissions. Enfin, on se connaissait déjà, voilà, mais... Mais je pense que...
Qu'est-ce que ça vous a apporté, concrètement?
Moi, ça m'a apporté, personnellement, en fait, tous les cas, une meilleure connaissance, et puis voir vraiment vers quel axe on voulait aller, et prendre le temps. Je pense qu'effectivement, au cours d'une réunion ou d'un échange, voilà, c'est 3 heures, là, c'est tout un week-end, où, en tous les cas, moi, pour ma part, j'ai pensé Habitat Participatif, j'ai dormi Habitat Participatif, donc, pendant 3 jours, et puis le fait d'avoir aussi il y avait des temps bien précis où on était vraiment bien guidé et c'est important, je pense que sinon on peut vite dévier et là on a fini par un résultat qui nous satisfait et qu'on reprend, qu'on va sans doute reprendre sur notre projet autour, voilà, on s'est créé une petite pièce de théâtre toute simple mais qui parlait, voilà, qui je pense reflète notre envie. Et je pense que le fait d'avoir quelque chose à présenter aux autres aussi, c'est super important, puisqu'il n'y a pas que... Enfin, on était vraiment dans le côté pratique et non pas uniquement dans des choses qu'on rédige sur papier. Il y a de la création, donc moi, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté.
Anthony, c'est qui les experts pour un projet comme Habitat Participatif et Compagnie, enfin Habitat et Compagnie?
Alors, Super Brest propose 2 types d'experts. Il y a des experts Fab Lab, autrement dit, qui maîtrisent les machines, les dispositifs techniques à disposition. Et puis, il y a des experts méthodologiques qui s'auto-appellent les questionnologues. En fait, en gros, ce sont des personnes qui sont là, non pas experts du domaine du groupe de travail, mais plutôt experts méthodologiques pour accompagner dans toute la démarche d'émergence d'idées, de trouver les axes de direction. Et en fait, ils font travailler le groupe. C'est-à-dire qu'ils ne font pas à la place du groupe. Ils ne disent pas quoi faire, quoi penser, etc. Ils aident, en fait, c'est un peu des mailloticiens. En fait, ils aident le groupe à accoucher de leur idée et puis à décider de quels axes ils vont travailler et vers où aller jusqu'à la fin. Ce qui fait qu'en gros, Super Brest, pour le projet d'habitat participatif, sert d'accélérateur de projet. Et participe aussi de la notoriété du projet, puisque il y a 2 étapes importantes dans Super Brest, c'est le samedi soir et le dimanche soir, où le samedi soir, tous les groupes passent et ont 3 minutes pour présenter leur état d'avancement et éventuellement leurs besoins. Et ça veut dire qu'en gros, les 50 participants qui sont là vont recueillir l'avis. Donc en fait, les gens qui présentent leur projet le livrent aux autres participants et les autres participants posent des questions ou font des propositions. Est-ce que vous avez pensé à ça? Moi, je connais ça, je peux vous aider là-dessus, etc. Donc la méthodo, c'est les questionnologues qui sont une personne par équipe et qui accompagnent d'un point de vue méthodologique. Et ensuite, il y a mutualisation et émulation entre les 50 participants. Tout ça dans une ambiance qui n'est pas une ambiance de compétition, hein, puisque beaucoup de hackathons vont classer les équipes en disant
« il y aura
le vainqueur », etc. Nous, on ne gagne rien. Hein. Oui. Les gens qui viennent là, Il paye 15 euros pour venir participer, parce qu'on estime qu'il y a une participation minimum nécessaire, hein, puisque quand vous venez à Super Brest, hein, vous avez un pot qui est offert le samedi soir avec un buffet, vous avez un repas chaud qui est servi le vendredi soir, le samedi soir aussi. Non, mais il y a de la convivialité, il y a à manger. Le midi, c'est des auberges espagnoles. Alors, ça ne veut pas dire que vous amenez votre chorizo, hein. Auberge espagnole, ça veut dire que vous amenez quelque chose à partager, une tarte, une quiche, des légumes, etc. C'est très ouvert et très, très généreux.
Et comment se fait la sélection des projets qui vont participer?
Un mois avant Super Brest, généralement aux alentours du 10 octobre, un mercredi soir, on invite tout le monde, tous ceux qui veulent, les curieux, ceux qui ont des questions à se poser, qui se demandent mais qu'est-ce que c'est que ce truc, à venir pour la soirée de lancement de Super Brest, où déjà les personnes qui ont des propositions de projets peuvent les exposer et les proposer au public qui est présent là ce soir-là. Ensuite, à partir de là, on fait connaître Super Brest, on tient bien à des relais comme le fait Transistor aujourd'hui, en parlant un peu de l'opération. Et puis, le jour J, le vendredi soir, et c'est là que pour nous, organisateurs, c'est un véritable stress, parce que la première fois qu'on a organisé ça, on arrive, c'est vendredi soir, et on ne sait pas ce qui va se passer. Parce qu'on ne sait pas quel projet va être retenu.
Ah oui, c'est pas dit, on ne dit pas à l'avance le programme, il y aura tel et tel projet.
Et non, c'est vraiment un hackathon, c'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment une page blanche qui s'ouvre. Uh-huh. Et là, en fait, ce qu'on dit, on a quand même quelques règles. En fait, en gros, le point fort des hackathons comme Super Brest, c'est leur côté non compétitif, mais plutôt collaboratif, pour agir ensemble pour un monde meilleur, et surtout la méthodologie. Et donc, en fait, quand les gens débarquent le vendredi soir, on a une règle qui dit... un projet, c'est 3 personnes minimum et 7 personnes maximum. Mmh. Ça, c'est le fruit de 10 ans d'expérience, puisqu'on a constaté que les projets qui avaient que 2 personnes, ça donne un duo, c'est assez... Il y a peu d'émulation.
Oui, mais là, Habitat et compagnie, vous êtes 19, ça va pas?
Oui, non, mais nous, effectivement, on n'est pas arrivé avec l'ensemble du groupe.
Ah oui, d'accord. C'est pendant le hackathon qu'on doit être 7 maximum.
Voilà.
C'est ça.
Ah oui, voilà. Okay. Donc, nous, on s'est retrouvés une petite équipe. On était de notre collectif. Nous étions 4 personnes, mais l'idée c'était pas de se retrouver entre nous, mais c'était d'ouvrir notre proposition à d'autres personnes. Et pareil, je pense que c'est surtout ça le jour de présentation, c'est vers quel projet on se retourne. Enfin, moi j'aurais pu aller dans un autre projet parce qu'il y avait d'autres projets qui m'intéressaient énormément. Là, je me suis retrouvée dans le projet d'Habitat Participatif.
Ah oui, au départ, vous faisiez pas partie d'Habitat.
Si, j'étais déjà dans Habitat Participatif. Mais il y a d'autres projets qui m'intéressaient également. Donc, effectivement, si d'autres personnes présentes le vendredi soir étaient vraiment intéressées par l'habitat participatif, il est fort probable que je serais allée dans un autre projet qui me
Oui,
vient
pendant le hackathon. Ouais, voilà. Et sinon, là, votre projet d'habitat participatif, où est-ce qu'il en est
On avance petit à petit, donc voilà, mais...
Vous avez déterminé, par exemple, si vous voulez un immeuble collectif, la rénovation...
On n'en est pas là encore.
Non,
voilà, on est vraiment à l'étape de réflexion, et on se rend compte qu'effectivement, à force de diffuser, puis d'aller dans différents endroits, il y a une grande demande sur la ville, en tous les cas de Brest, mais ça prend du temps, et
oui,
puis il faut apprendre à se connaître, il faut mettre en place des règles, donc tout ça prend du temps, et des temps comme Super Brest nous permettent aussi d'évoluer, et puis d'avancer, d'avoir une méthodologie pour avancer, et puis peut-être des nouvelles, enfin des propositions auxquelles nous, on n'avait pas pensé au départ. Notre résultat, effectivement, au bout de... au dimanche soir, et même le samedi soir, effectivement, où on nous questionne, je trouve ça super intéressant, enrichissant, puisque on est tellement dans nos projets qu'on se rend peut-être pas compte de questionnements de personnes extérieures.
Oui, c'est ça.
Donc, et puis de voir les autres projets. Je pense qu'il y a notre projet, mais il y a aussi celui des autres. Je pense que c'est essentiel, effectivement, pour avancer.
Anthony, une minute pour conclure.
Mendier, comment
Super
je vais faire?
Ouais, je sais bien, c'est difficile.
Pour conclure, venez à Super Brest. Hein. Prochain Super Brest, c'est 28, 29, 30, il me semble. Ou alors c'est 29...
28 et 29 novembre.
30 aussi.
Non. Oui, c'est vrai, du 28 au 30, ça fait 3 jours, c'est vrai.
Et en fait, on va cette année, on a amélioré le dispositif, hein, c'est une demande des participants de cette année, c'était d'essayer d'installer un accompagnement tout au long de l'année.
Bah oui.
Et on a commencé, donc on a organisé une réunion d'étape fin janvier, et on va se faire un barbecue au mois de juin, histoire de réunir à nouveau tous les participants, histoire de faire un point d'étape sur l'avancée des projets, et des projets comme le projet Habitat Participatif, mine de rien, c'est un projet d'ampleur, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de construire un habitat participatif pour les personnes qui sont là, mais il s'agit de faire la promotion de l'habitat participatif, ça suppose d'interroger le PLU.
Pour susciter d'autres projets.
Oui, le plan local d'urbanisme, ça suppose aussi que les pouvoirs publics mettent en place quelque chose qui favorise l'habitat participatif, puisqu'on a une modalité d'accès au logement qui est différente de la modalité d'accès au logement classique entre les logements sociaux d'une part et le logement privé d'autre part. On a un truc qui ressemble plutôt à ce qu'on appelle les communs, en fait. Mmh. Et donc, ce projet-là est un projet ambitieux en termes de transformation de la société et qui mérite cette visibilité et ce travail qu'on a pu faire. Et d'ailleurs, le groupe le fait maintenant de manière autonome. Mmh. Et on se donne rendez-vous en juin pour discuter de ça. Si vous voulez participer au barbecue et venir discuter avec ces projets, je pense que les enjeux planétaires imposent qu'aujourd'hui, toutes les bonnes volontés se réunissent pour travailler dans le sens d'un monde meilleur.
Intelligence collective, comme on dit. Eh bien, on suivra tout ça chez les petits débrouillards Grand Ouest, sur le site internet notamment, j'imagine. Merci, cette émission est à réécouter sur le site de Transistor. La prochaine aura lieu le 22 avril et on se penchera sur les débats et les décisions politiques autour de l'adaptation au changement climatique. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.